Nous allons partager la parole de Dieu.
Et
ce matin, je vais terminer mon message sur le mensonge. Je l'avais commencé la semaine dernière. Et je vais vous faire un bref résumé pour terminer sur ce que je voulais vous dire à propos du mensonge. Le mensonge, nous en avons donné la définition, c'est l'énoncé délibéré de faits contraires à la vérité. Ça, c'est la première partie, c'est vouloir dire des choses qui sont fausses. Mais c'est aussi une dissimulation de la vérité, c'est-à-dire je cache un certain nombre de choses. Et en fait, le mensonge, c'est une forme de manipulation. C'est-à-dire, je fais croire à une personne certaines choses pour qu'elle agisse comme moi, j'ai envie qu'elle agisse. Par exemple, dans une relation, que ce soit du business, que ce soit un futur mariage, que ce soit de l'amitié, que ce soit toutes sortes de choses. Ou s'il y a de l'argent en jeu, ou s'il y a des choses en jeu à acheter. On présente certaines choses qui sont fausses, donc la personne prend une décision qui est tronquée, c'est-à-dire qui n'est pas vraiment équilibrée parce qu'elle n'a pas tous les éléments en main. Bien sûr, le menteur est quelqu'un de malhonnête, c'est quelqu'un qui est trompeur. Et on a vu que le mensonge, c'est les ténèbres. La vérité, c'est la lumière. Et on a vu que Dieu est un Dieu de vérité. Celui qui habite en toi est un Dieu de vérité. Nous avions vu aussi dans Proverbe 6 que Dieu a sept choses en horreur. Et deux nous parlent du mensonge, de la fausseté de la bouche. Deux sur sept, ça fait beaucoup. Donc Dieu ne prend pas le mensonge à la légère. Alors nous avons vu que la source du mensonge, évidemment, au début, c'est le diable. Nous avons remarqué que tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, qui est sous la gestion du diable, c'est pour ça que c'est tellement dur d'établir la justice, de se battre pour la vérité. Dans ce monde, tout s'oppose à la connaissance de Dieu. Eh bien, ce monde a été mis sous la gestion du pire gestionnaire qu'il pouvait avoir à cause d'un mensonge. Dieu a-t-il réellement dit? Ça a commencé par ça. Et depuis ce temps-là, eh bien, les hommes ont subi les conséquences de ce mensonge. Le péché, la mort, la maladie, tout ça c'est la conséquence d'un mensonge, imaginez. D'avoir accepté d'agir sur ce mensonge. Nous avons vu que le mensonge n'est pas un mauvais esprit qu'on doit chasser de nos vies. Et on va en parler aujourd'hui. C'est comme la colère, nous en avions parlé. Mais le mensonge, c'est quelque chose qui est dans la chair. Bien sûr, le diable essaye d'en profiter et d'en rajouter. Mais c'est quelque chose sur lequel nous devons travailler individuellement.
Et
ça veut dire que nous verrons que c'est une décision. Que le mensonge, tu ne peux pas aller voir quelqu'un en disant « Chasse de moi le mauvais esprit de mensonge et je ne mentirai plus. » Je vous rappelle que la chair ne se chasse pas, elle se renouvelle. Elle se crucifie. Elle se soumet. Mais la chair ne se chasse pas. Parce que souvent, il y a eu des faux enseignements là-dessus d'ailleurs. Où des gens allaient dans des séances de entre guillemets délivrance, où on chassait l'esprit de colère, on chassait l'esprit d'assoupissement, on chassait tout ce que vous voulez, et il n'y avait rien qui se passait. Alors, nous avons vu en deuxièmement les raisons du mensonge. Pourquoi est-ce que quelqu'un va mentir? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va avec sa bouche dire soit l'opposé de la vérité délibérément pour tromper, ou soit cacher suffisamment d'informations pour que l'autre soit trompé?
Eh
bien, la première chose, c'est projeter une fausse image de soi-même. En fait, c'est essayer de se présenter sous un jour où on n'est pas du tout, c'est pas du tout le reflet de qui nous sommes. Et je vous ai montré l'exemple avec Saül. Il avait reçu des ordres de détruire et de faire de l'interdit, c'est-à-dire de tout exterminer ce qui appartenait à Amalek, ainsi qu'à Amalek, le peuple d'Amalek. Et il avait délibérément désobéi en gardant le meilleur. Et Dieu avait prévenu le prophète Samuel. Et en fait, Saül s'est présenté avant même que Samuel lui dise quoi que ce soit, en disant: j'ai fait exactement ce que l'Éternel m'a dit de faire. Et c'était faux, il le savait bien. Et rappelez-vous, Dieu nous teste. Dis à ton voisin: Dieu te teste. Si tu veux aller loin avec Dieu, si tu as reçu une grande vision de la part du Seigneur, Dieu va te tester. Et croyez-moi, il va nous tester tous vis-à-vis du mensonge. Dieu ne peut pas utiliser des menteurs. Vous savez, Dieu fonctionne comme ça avec nous. Il nous donne une vision, c'est-à-dire il met des choses en nous, il nous parle, il nous confirme souvent par prophétie, etc. Il va te montrer de grandes choses extraordinaires. Et quand tu vas recevoir cet appel, tu vas faire: waouh! Le Seigneur m'a dit ça. Et un tel me l'a confirmé. Et c'est vrai, tu as reçu ces choses. Maintenant, est-ce que ces choses vont se réaliser dans ta vie? Elles pourront se réaliser à 0,01%, ou à 5%, ou à 10%, à 20%, à 50%, ou à 100%. Seulement si tu passes les examens de Dieu. Et Dieu est imparable pour la correction des examens. Dieu est là. Il te fait passer des tests de caractère. Si tu as un problème de mensonge, tu peux avoir les dons les plus extraordinaires de Dieu. Tu ne rentreras jamais dans ton appel. Ta vision, tu seras enterré avec ta vision. Parce qu'il y a des tests que Dieu nous fait passer. Et un de ces tests, c'est la vérité. Combien de prédicateurs j'ai entendu tristement dire: il y avait 1000 personnes devant moi. Tu te renseignes, il y avait 50 personnes, 2 chats, 3 souris et 5 araignées. J'ai une église de 10 000 personnes. Bon, t'en as peut-être 1500. À quoi ça te sert de mentir, de ne pas dire la vérité? C'est grave, ce genre de choses. Et c'est d'une stupidité incroyable. Dieu ne peut pas bénir. Vous allez voir les fruits pourris du mensonge. On va en parler. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle les gens mentent, c'est pour se protéger. Ils ont fait une gaffe. Ou des fois c'est délibéré, des fois c'est ils sont mis dans une situation qui était mauvaise. Des fois c'est vraiment le péché, ou des fois c'est des choses dans lesquelles tu te mets et puis t'as pas mesuré les conséquences. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher à te couvrir. Et là tu fais une erreur. Dieu ne justifie jamais quelqu'un qui a menti. Combien de gens veulent mentir et mentent? Et il prie Dieu de les sortir d'affaires. Tu peux pas tromper Dieu. Il connaît la vérité. Si tu l'as fait, et que tu as raconté le contraire, tu peux aller prier Dieu que Dieu te sorte de ton problème. Dieu ne nous sort pas des problèmes si nous ne passons pas par une sincère repentance. Dieu ne guérira jamais ton caractère si tu n'es pas vraiment sincère avec lui en disant, Seigneur, je l'ai fait et j'en subirai toutes les conséquences. Mais souvent, les gens, quand on parle de correction divine, vous savez, souvent, ils pensent que Dieu va leur envoyer une maladie. Non, Dieu n'a pas de maladie, Dieu ne t'en va pas. La correction divine, ce n'est pas la maladie.
Ce
n'est pas non plus qu'il va détruire tes biens, parce que Dieu ne détruit pas tes biens. Dieu est un Dieu qui bénit, ce n'est pas un Dieu qui enlève. Dieu est un Dieu qui multiplie, ce n'est pas un Dieu qui retranche ou qui divise. Mais par contre, il sait très bien que si tu te mets sur le terrain de l'ennemi, tu lui ouvres des portes et c'est dangereux pour toi. Et Dieu, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait ? Pour nous corriger, qu'est-ce que Dieu fait ? Il nous limite dans ce qu'il veut nous donner par rapport à notre destinée. Ça veut dire que tu sens vraiment que le Seigneur voudrait ça pour toi. Et c'est retardé parce que tu ne peux pas contenir ces choses. Ça serait trop dangereux pour toi d'aller si loin que Dieu te bénisse de cette façon-là, parce que avec la bénédiction, il faut le caractère de Dieu. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Avec la bénédiction de Dieu, il faut le caractère qui va avec. Sinon, tu chuteras et Dieu ne veut pas que tu chutes. Maintenant, nous allons voir la troisième raison. La troisième raison, c'est pour tromper les autres. Donc là, on continue. Et nous avons un exemple typique qui est l'exemple de Géasi. Alors, Géasi, c'était vraiment quelqu'un qui n'était pas intelligent. Géasi, c'était le serviteur d'Élisée. Et franchement, ce Géasi, il ne voyait pas plus loin, comme on dit en français, plus loin que le bout de son nez. C'est-à-dire qu'il avait une vue courte pour les choses de Dieu. Dieu va faire un miracle extraordinaire au travers du prophète Élisée. C'est l'histoire de Naaman le Syrien. Ce général syrien, ennemi d'Israël, qui avait une petite esclave juive. Et Naaman avait tout, sauf qu'il avait un gros problème. Nous savons, il était lépreux. Une maladie dont on ne guérissait pas à l'époque, qui ne se traitait pas à l'époque. Et cette petite servante lui a dit, mais si mon Seigneur était en Israël, le prophète pourrait le guérir. Et c'était une parole de Dieu. Et effectivement, Naaman a été en Israël, et puis Élisée va lui donner une parole au travers de son serviteur. Naaman a failli passer à côté de son miracle par une attitude coléreuse. Nous l'avions déjà vu sur la colère, mais il s'est corrigé. Et puis quand il est guéri, il va se tremper cette fois dans le Jourdain. Et au verset 15, donc de 2 Rois, donc de 2 Rois chapitre 5, il est dit la chose suivante. 2 Rois 5 verset 15, il retourna, donc Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se tint devant lui en disant, voici, je reconnais qu'il n'y a point d'autre Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël, et maintenant accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Verset 16, Élisée répondit, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque c'est non, permet qu'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Que l'Éternel pardonne cependant ceci à ton serviteur, quand mon Seigneur rentre, etc. Bon, il lui explique certaines choses. Alors maintenant, verset 20. Verset 20, on a la chose suivante. Bon, il y a le Naaman qui va repartir, Élisée n'accepte rien. Et verset 20, il est dit, Géasi, le jeune serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit, mon Seigneur a ménagé Naaman ce Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir derrière lui et j'en obtiendrai quelque chose. Alors Géasi se mit à la poursuite de Naaman. Naaman, le voyant courir derrière lui, se précipita au bas de son char pour aller à sa rencontre et dit « Tout va-t-il bien ?» Il répondit « Tout va bien. Mon Seigneur m'envoie te dire. Voici qu'arrivent maintenant chez moi des monts d'Éphraïm, deux jeunes gens d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et deux vêtements de rechange. » Naaman dit « Consent à prendre deux talents. » Il insista auprès de lui, mit deux talents d'argent dans le sac et les donna, ainsi que deux habits de rechange à deux de ces jeunes gens qui portèrent devant Géasi. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains, les déposa avec soin dans la maison et renvoya ses hommes qui partirent. Puis il vint lui-même et se présenta devant son seigneur. Élisée lui dit « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit « Ton seigneur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. » Mais Géasi lui dit « Ma pensée n'était pas absente parce que cet homme a quitté son char pour revenir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des olives, des oliviers, des figues, du petit et du gros bétail, des serviteurs, des servantes, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta descendance pour toujours. » Et Géasi sortit de sa présence avec une lèpre comme la neige. Si vous voulez voir un homme qui a gâché sa destinée par un mensonge, c'est bien Géasi. Géasi avait de l'avidité, il voulait du gain. Il n'avait pas compris comment Dieu fonctionnait. Vous savez, Élisée a servi Élie pendant environ 10 ans et demi. On connaît tous cette histoire où Élie est venu sur un ordre divin mettre son manteau sur Élisée. Élisée, qui labourait les champs de son père à l'époque, a tout quitté, a suivi le prophète, et pendant 10 ans et demi il va servir Élie. Et quand vous regardez la Bible, ce que Élisée faisait à cette époque là c'était uniquement un job de travailleur, de quelqu'un qui faisait, c'était un groom. Il préparait la nourriture pour Élie. Il allait annoncer que Élie arrivait dans telle ville. Il allait regarder l'endroit et préparer l'endroit dans lequel, là où Élie allait loger. Pendant 10 ans et demi, qui ici aurait accepté pendant 10 ans et demi de devenir un groom? Alors qu'il était apparemment fils d'un propriétaire terrien, et il y avait une ferme, apparemment il était bien. Il a accepté cela parce qu'au travers de cela, il avait ce qu'on appelle un mentor, c'est-à-dire quelqu'un qui allait le former parce qu'il devait prendre sa succession. Et Élisée était quelqu'un de humble. Il a connu comment l'onction fonctionnait. Et quand il a reçu l'onction de prophète, directement il est entré dans son ministère et il a fait des choses exceptionnelles. Et ça, c'est une leçon. Géasi aurait dû quand même se dire, apparemment, il n'y a pas de promesse sur ma vie, mais soyons fidèles. Je vais regarder comment cet homme Élisée, cet homme exceptionnel, travaille dans le Seigneur. Plutôt que cela, il s'est dit, qu'est-ce que je peux retirer du ministère? Triste. Lamentable. Cet homme a tout gâché à cause de son mensonge. Il est venu vers Naaman parce qu'il a vu, il s'est dit, Naaman est un homme riche. Il était prêt à offrir des biens à mon Seigneur. Et mon Seigneur Élisée a refusé. Vous savez, les menteurs et les convoiteurs ont le cœur brisé quand ils voient une opportunité leur passer sous le nez. Si tu veux voir un menteur triste, tu l'amènes à louper des opportunités où il peut retirer des choses. Et c'est exactement le caractère de Gehazi. Il vient et qu'est-ce qu'il fait? Il va tromper
Naaman.
Il y a beaucoup de leçons ici. D'abord, on voit qu'il va chercher à tromper Naaman en sautant sur l'opportunité. Le menteur saute sur les opportunités. Parce qu'il sait que s'il dit un mensonge un peu plus tard, ça sera fini. Il ne pourra plus récupérer ce qu'il voulait récupérer. La deuxième chose qu'on voit, c'est que un mensonge va entraîner un autre mensonge. Ça devient une spirale. Parce que là, il a menti à Naaman. Il a récupéré les choses sur un mensonge. Des biens mal acquis. Et après, il se retrouve, il faut être fou, il est autour d'un homme de Dieu.
D'un
prophète en plus. Et il va mentir. Il trompe une personne à qui le prophète, que le prophète n'a pas voulu recevoir au niveau des biens. Il se présente au Dieu du prophète. Et Élisée lui dit tu viens d'où là? Moi,
je
n'ai pas bougé d'ici. Il faut être fou pour faire ça. Vous savez, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Si tu cherches à tromper quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu et qui vit proche de Dieu, au bout d'un moment, il va y avoir quelque chose qui va être dévoilé. Écoute bien cela. Tu es au milieu de l'assemblée des saints. Quand quelqu'un vit proche du Seigneur et que tu le trompes par tes mensonges, tôt ou tard, cette personne va s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je
ne
parle pas des gens qui soupçonnent tout le temps le mal chez les autres,
mais
si tu aiguises ton discernement spirituel, moi, vous savez, des fois, je souris gentiment. Gentiment, parce que je sais qu'il y a des personnes qui racontent des mensonges. Je réagis assez lentement en général. Par contre, quand je réagis par rapport à des gens qui ont menti, je ne suis pas très gentil. Par contre, je réagis doucement. J'attends et j'observe. J'attends et j'observe. Et tôt ou tard, il y a quelque chose qui ressort. Si c'est la vérité, les choses vont bien aller. On va sentir les choses correctement. Mais si c'est du mensonge. Vous savez, des fois, il y a des gens qui viennent en entretien pastoral et qui vous racontent des mensonges. Tôt ou tard, la vérité sortira.
Mais ce
n'est pas moi qui vais dire « Ah, tu as menti !» Non, ça je ne le dis jamais tout de suite personnellement. J'attends. Et tôt ou tard, ça ressort. Parce qu'on vit au milieu des saints. Donc faites attention. Là, Gehazi s'est fait avoir dans son propre piège. Il a fait un mensonge. Il a eu le fruit de son mensonge, entre guillemets, il a récupéré de l'argent. Mais il s'est retrouvé confondu et il a dû mentir une deuxième fois. Et là, il s'est fait coincer. Quand quelqu'un ment, il se fait coincer. Si tu ne te repens pas de ton mensonge, tu seras coincé. Vous savez, la Bible nous dit dans les 10 commandements, dans Deutéronome chapitre 5 au verset 20, elle nous parle du mensonge. Un des 10 commandements, c'est de ne pas mentir. Un des 10 commandements, au verset 20, il est dit: tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Faites attention à cela. Ne vous impliquez jamais, Deutéronome 5, verset 20, dans un faux témoignage. Si tu ne sais pas quelque chose sur quelqu'un, tu ne dis rien.
Mais
il y a des gens devant des tribunaux et des chrétiens qui disent des faux témoignages. C'est honteux. C'est scandaleux. La Bible est très claire là-dessus. Ne rends pas un faux témoignage. Si tu ne sais rien sur une situation, tu dis rien, tu dis « je ne sais pas ». Si
tu
as entendu quelques bruits, tu dis « j'ai entendu quelques bruits ». Si tu as vécu certaines situations, tu peux dire « bon, tu sais, moi, voilà ce que j'ai vécu, et essaie d'être équilibré ». Mais ne rapporte pas jamais de faux témoignages. Et surtout jamais envers des autorités. Ça, je vous le garantis. Si jamais vous vous retrouvez devant des situations comme ça, tu seras démasqué. Dieu ne te justifiera jamais. Parce que quand vous êtes interrogé par une autorité et vous dites des choses qui sont fausses, un mensonge, tôt ou tard, la vérité sortira. Et la Bible est très claire là-dessus. Alors maintenant, nous allons voir les fruits pourris du mensonge. Il y a beaucoup de fruits pourris du mensonge. D'abord, si tu es menteur ou que tu es demi-menteur, je vais te dire une chose. Regarde un peu ce que le psaume 24 dit. Vous savez, Dieu, on ne peut pas le tromper. Tu peux tromper les hommes. Tu peux mentir à des personnes. Tu peux t'arranger pour leur faire croire certaines choses. Et il y a des choses personnelles que tu n'as pas à dire à des gens, même s'ils te demandent certaines choses. Je vous rappelle que le fait de ne pas mentir, c'est pas aller déballer tout ce qu'on sait ou tout certains secrets qu'on a personnels. Il y a des choses qui regardent certaines personnes et des choses qui ne regardent pas ces mêmes personnes. Chacun a son intimité, a ses choses personnelles. Et tu les gardes pour toi, c'est normal. La Bible nous dit au psaume 24, qui montera la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Là, c'est vraiment cet aspect de venir dans la présence de Dieu. Celui qui a des mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui le cherchent, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Alors, on peut lire juste le verset 4, s'il vous plaît, en ironie. Merci. Si tu es menteur, tu peux essayer de lever tes mains vers le Seigneur. Ton cœur te dira Et c'est normal. Parce que la Bible nous dit que quand nous sommes nés de nouveau, notre conscience a été purifiée. Et tu peux lever des mains. La Bible te dit, si tu ne lèves pas des mains pures, des mains innocentes, pardon, et un cœur pur, bien, tu ne pourras pas aller à la montagne de Dieu, c'est-à-dire tu ne pourras pas être dans une intimité avec Dieu. Et ça, c'est normal. Parce que Dieu connaît les cœurs. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte, nous dit la Bible. Le Seigneur nous connaît très bien. Il sait ce que tu penses à l'instant même. Il sait les motivations de ton cœur à l'instant même. Il sait ce que tu as fait hier, avant-hier, chaque jour. Dieu connaît toutes choses. Rien n'échappe à Dieu. C'est ce qu'on appelle l'omniscience de Dieu. Il
n'y
a rien dans l'univers qui échappe à Dieu. C'est un des psaumes qui nous en parle. Je crois que c'est le psaume 139 qui nous en parle. La deuxième chose, c'est que tu vas créer une insensibilité.
waharemeye ukutumva
à la voix de Dieu dans ton esprit.
Ijwi ry'Imana mu mutima wawe.
Et ça, il faut faire extrêmement attention.
Aha rero no kuhagabira cyane.
Des gens qui mentent.
Abantu babesha.
Pêchent.
Bakora ibyaha.
Et quand tu pêches,
kandi ukoze icyaha,
tu crées une insensibilité à la voix de Dieu.
Haba hariho ukurema ukutumva ijwi ry'Imana.
Tu peux chercher la voix de Dieu.
Urashobora kurondera ijwi ry'Imana.
Si tu es menteur, Dieu ne te dirigera pas.
Nimuri umubesha, Imana ntizokuyobora.
Et il y a des gens comme ça qu'on voit qui sont remplis de mensonges.
Hari abantu ushobora kubona gutyo buzuye
ikintu. Et ils commencent à vous dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit.
Agatanga kugira ngo Imana yambwiye, Imana yambwiye, Imana yambwiye.
Vous savez, il y a longtemps ces gens-là m'impressionnaient, mais aujourd'hui ils m'impressionnent vraiment plus.
Abantu mwe nabo bahora bankanga kera ubundi bakinkanga.
Parce que je sais qu'il y a derrière. Et malheureusement, certaines de ces personnes se corrigent. Heureusement, certaines personnes se corrigent, mais un bon nombre ne se corrigent jamais et elles font naufrage par rapport à la foi, comme nous dit Paul dans Timothée. Regardons 1 Jean 2:27. 1 Jean 2:27. Premier épître de Jean, chapitre 2, verset 27. Il y a quelque chose que Dieu nous dit dans sa parole à propos d'une onction qui réside en nous, c'est-à-dire d'une mesure de l'Esprit de Dieu qui réside dans chaque croyant né de nouveau. Si tu dis, moi, le Seigneur ne me parle pas, Regarde ce qui sort de ta bouche. Si tu as une bouche pleine de fausseté, Dieu ne te parlera pas. Tu as complètement insensibilisé tes oreilles. Les oreilles spirituelles. Et sachez une chose, ces oreilles spirituelles sont fondamentales. Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie. 1 Jean 2:27 nous dit, pour nous, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Donc nous savons que c'est l'onction de la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit qui habite en nous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. Donc cette onction est véritable, c'est la vérité en toi. Cette onction, le Saint-Esprit parle à ton esprit. Rend témoignage à ton esprit. La plupart du temps, tu verras que la direction divine vient par des choses que Dieu met dans ton esprit. Dieu nous parle assez rarement au travers d'une voix dans notre esprit. Ou une voix audible ou quoi que ce soit. Moi personnellement, j'ai jamais entendu de voix audible de ma vie. Dieu m'a beaucoup dirigé par mon témoignage intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Ce sont les richesses de Christ que vous avez en vous.
Vous
savez, vous êtes là, vous êtes dans la présence de Dieu, vous demeurez dans sa présence. Et Dieu est en train de s'occuper de votre esprit et mettre des choses dans votre esprit. Qui de plus en plus commence à émerger et à diriger votre vie. C'est l'esprit de vérité qui habite en vous. Donc c'est clair, d'abord vous aurez une mauvaise relation avec Dieu.
Et
plus, moins vous venez dans la présence de Dieu, plus vous êtes affaibli. Donc plus vous allez retourner dans le péché. Ça c'est classique. Ce sont les techniques du diable. Nous amener dans le péché, ça nous coupe de la communion avec Dieu. Je vous rappelle que ça ne nous destitue pas de notre position de fils ou de fille, mais ça nous coupe de cette relation avec Dieu. Ça nous donne de l'insensibilité dans notre esprit parce que nous faisons des choses qui déplaisent à Dieu. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Nous nous affaiblissons spirituellement. Et quand tu es faible spirituellement, qu'il y a des choses qui sont devant toi, des tentations d'orgueil, des tentations de vol, des tentations de toutes sortes de choses, et bien tu tombes facilement dedans. Ensuite, Ensuite, la troisième chose, c'est une vie qui va être brisée. Proverbe 6. Il y a vraiment des fruits pourris du mensonge. Proverbe chapitre 6 nous montre cela. Et je vais lire du verset 12 au verset 15. Même le verset 12 nous dit « Le vaurien est un homme injuste. Il marche dans la fausseté de sa bouche. Il cligne des yeux, parle du pied. » Vous savez les gens qui parlent du pied là comme ça là, hein? Fait des signes avec les doigts, la perversité dans son cœur. Il médite le mal tout le temps, il déchaîne les querelles. Aussi, sa ruine arrivera-t-elle subitement, il sera brisé tout d'un coup sans remède. Alors là, on a la description de ce qu'on appelle un vaurien, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans le péché. C'est cette description. Il est injuste, mais c'est un menteur. Il cligne des yeux, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Il parle du pied, il fait des signes avec les doigts, là. C'est, on lui doit tout. La Bible nous montre que ces personnes-là vont subir une ruine soudaine. Et vous savez, nous qui sommes nés de nouveau, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et Dieu nous prévient. Quand il y a des gens, quand Dieu commence à te prévenir, il te prévient d'abord dans ton cœur. Et après, il va t'amener des personnes qui vont te dire, fais attention, là, tu es en train de dévier sérieusement. Fais attention, tu sais, j'ai rêvé de toi, je voyais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans ta vie. Fais attention, fais attention. Dieu nous donne des signes.
Qui
nous disent, fais attention, corrige la direction.
Tu es
en train de t'écarter. Et à ce moment-là, il faut revenir sur le droit chemin. Donc, c'est clair que le mensonge va nous amener à de mauvais comportements et va nous amener dans une spirale de péché. Ensuite, le mensonge va nous emmener dans des mauvaises relations. Autre chose maintenant. Donc d'abord, on a vu la mauvaise relation avec Dieu. La conscience qui, de plus en plus, devient insensible. Donc, je n'arrive plus à entendre la voix de Dieu. Une vie qui est brisée. Et maintenant, de terribles relations. Regardez Proverbe 13, verset 5. Proverbe 13, verset 5. La Bible nous dit « Le juste a de la haine pour les paroles fausses, c'est-à-dire pour les mensonges. Le méchant se rend odieux et fait rougir. » Sachez une chose. Un menteur attire des menteurs. Vous avez remarqué que les gens qui mentent sont entourés de gens qui mentent au bout d'un certain temps. Parce que tu attires ce que tu es. Il y a des gens parfois, ils se plaignent que dans leur relation, ils n'ont pas de bonnes personnes autour d'elles. Mais tes relations sont le reflet de qui tu es. On dit en français qui se ressemble, s'assemble. Et c'est vrai, c'est un principe que l'on voit. C'est clair. Si tu es menteur, tu vas avoir tout autour de toi des menteurs. La personne qui aime la vérité ne voudra pas être proche de toi. C'est horrible d'être proche d'un menteur si tu aimes la vérité. Tu n'as pas envie d'être proche d'un menteur. Tu sais que la personne n'est pas capable de parler la vérité. Ces gens-là, si toi tu es intègre, tu ne veux pas les fréquenter. Au début, tu les aides ou tu essayes de les aider, mais si tu vois que ce sont vraiment des gens qui sont incapables de dire la vérité, tu les mets à l'écart. Donc ces gens-là, toutes les personnes intègres, c'est ce que la Bible nous dit, n'aiment pas les gens qui mentent. Ils s'en écartent. Donc le menteur se retrouve avec des gens de mauvaise réputation. Ça, c'est tout à fait classique. Donc tu auras un entourage de terribles relations.
Tu
auras plein d'histoires avec tout ça d'ailleurs. Vous savez, c'est bizarre, mais j'ai remarqué qu'il y a des gens qui aiment bien tout le temps avoir des histoires, des disputes, des histoires, enfin, tout le temps. Dieu t'appelle à vivre dans la paix. Donc si tu as tout le temps des histoires avec des gens, regarde ce qui sort de ta bouche. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont des langues, vous savez, des grandes langues. C'est tout moche. À chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, vous dites, ah ça y est, il va encore raconter des trucs bizarres. Et ces gens-là, ils ont des histoires. Il y a des querelles. Ils se retrouvent à la police et ils vont vous dire, moi j'ai rien fait.
Hey,
si tu te retrouves souvent à la police, dis-moi si tu n'as rien fait. Si tu te retrouves au tribunal régulièrement, dis-moi que tu n'es pas coupable quelque part.
Il y a
des gens, ils ont des histoires sur le dos. Ils ne peuvent pas rentrer dans une relation sans avoir des histoires. Et très souvent, c'est le mensonge, la racine.
Ce n'est
pas tout le temps le cas, mais c'est souvent le cas. Ensuite, une chose qui est aussi importante, un fruit pourri, c'est que vous n'allez jamais grandir dans la foi.
18-21,
proverbe.
18-21.
Tu n'arriveras jamais à grandir dans la foi. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, celui qui l'aime en mangera les fruits. Si
tu
as une grande langue où il y a plein de déchets qui sont là, tu es en train de parler des choses dont tu ne sais que ce n'est même pas la vérité. Comment est-ce que tu vas appliquer les principes de la foi, donc de la confession de la parole de Dieu sur tes situations? Tu es incapable de croire dans tes propres paroles puisque tu racontes des mensonges. Et tu penses que tu vas parler la parole de Dieu et d'un seul coup la parole de Dieu va avoir un effet? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Il n'y aura rien qui va se passer dans ta vie. Tu peux faire toutes les prières que tu veux, toutes les belles confessions que tu veux. Si tu es menteur, il ne se passera rien parce que tu n'as pas foi en tes paroles. Et rappelez-vous que ce qui sort de notre bouche, la plupart du temps, c'est la façon dont nous allons libérer notre foi. Donc si tu n'es pas capable de croire dans tes propres paroles, comment tu vas dire, oui, moi je confesse la parole de Dieu, j'ai la foi. Il
n'y
a aucune puissance dans ta langue. Si
tu
es un menteur, si tu es quelqu'un qui dit à la moitié de la vérité, comment est-ce que tu vas avoir une puissance dans ta langue? Comment est-ce que tu penses qu'alors tu es en train de parler la parole de Dieu sur tes situations, que Dieu va agir alors que tu ne crois même pas dans tes propres paroles? Tu es en train de violer le pire des principes, une des plus grandes lois du royaume de Dieu. Comment veux-tu que Dieu honore alors que tu parles sa parole? Alors que 5 minutes avant, tu étais en train de dire des choses qui étaient contraires à la vérité. Ça
ne
marche pas comme ça. Tu ne grandiras jamais dans la foi. Tu pourras faire toutes les prières que tu veux. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il
n'y
aura aucune puissance dans ta bouche. Si
tu
as de la puissance pour le mensonge, il n'y a aucune puissance pour la vérité. Et tu ne verras jamais Dieu intervenir dans tes situations. Une autre chose, un autre fruit pourri, c'est le stress. Vous savez que les menteurs vivent toujours dans le stress. Parce qu'ils ont fabriqué une histoire. Donc il faut qu'ils restent dans cette histoire. Mais souvent, il y a des circonstances où des gens qui connaissent l'autre partie de l'histoire. Donc il faut être comédien, menteur très longtemps pour s'en sortir. Parce que si tu te contredis, c'est là où tu vas avoir des problèmes. C'est souvent d'ailleurs, je crois, une des techniques des policiers ou des gens qui sont formés pour détecter le mensonge. Essayer de passer par toutes les issues possibles pour que la personne commence à se contredire. Quelqu'un qui se contredit, c'est quelqu'un qui a menti. Donc elle se fait prendre à son propre piège. Donc c'est toujours difficile pour un menteur de vivre dans son mensonge. C'est stressant. Parce que d'un seul coup, il voit dans la rue quelqu'un qui connaît bien son histoire. Et là, d'un seul coup, il est avec des amis, il dit « Ah, au fait, j'ai un rendez-vous urgent. Donc, en fait, il se retrouve dans des situations extrêmement gênantes, très inconfortables. Il est obligé de continuer à mentir. Comme Gehazi, un mensonge amène un autre mensonge. Parce qu'on ne peut pas changer l'histoire. Mais malheureusement, il y a des gens qui peuvent connaître la vérité. Et alors, au bout d'un moment, le menteur essaye de se faufiler. Mais il se retrouvera souvent coincé. Et ça, c'est un grand piège. Et il y a des gens qui vivent dans un stress continuel, dans une peur continuelle. Qu'on les découvre un jour. C'est pour ça que des fois, vous avez des gens qui se dénoncent à la police 20 ans plus tard, ça se voit des fois.
Qui
vous diront, voilà, vous avez condamné un innocent, c'était moi le coupable.
Pourquoi?
Parce que ça pèse. Ça pèse. Pendant des années, quelqu'un a caché un mensonge. Et cette personne a vécu avec ça, a dormi avec ça. Il y a des gens, des fois, ils construisent leur mariage sur des mensonges. Et des années plus tard, il y a la vérité qui sort. Bonjour, je voudrais voir mon papa. Et tu t'aperçois que ça n'avait jamais été dit avant le mariage. Il y a eu un enfant qui a été fait et qu'on l'a caché pendant des dizaines d'années. Misérable, misérable. Et il y a des gens qui vivent comme ça. Regardez Proverbe 20, 17. Quelque chose qui passe mal quand on l'a acquis avec le mensonge. Vous êtes très silencieux ce matin. La Bible nous dit, Proverbe 20, verset 17, « Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. »
20, verset 17.
Donc au début, la personne va mentir, elle va s'en sortir, elle va acquérir certaines choses, le pain. Mais plus tard, dans ta bouche, ça sera comme des graviers. Ça passera très mal.
Très, très mal.
Donc ça, c'est tous les fruits pourris du mensonge.
Il y a
des mensonges, vous savez, on peut en subir les conséquences du jour au lendemain.
Il
y en a d'autres, ça peut mettre des dizaines d'années. Mais tôt ou tard, ça nous rattrape. Tôt ou tard, ça te rattrapera. T'as menti parce que t'as triché sur tes curriculums et tout ça. Je me souviens d'une sœur un jour. Elle n'était pas sauvée quand elle a fait ça. Mais pour postuler, elle avait mis certaines choses, je crois que c'était à propos de l'anglais ou je ne sais plus quelle histoire.
Elle avait été
prise. Et elle avait un bon poste. Et elle s'était convertie. Et elle vivait avec ce mensonge. Et elle avait pris la décision d'aller voir son patron. Oh, je sens les oreilles qui font. Elle a été voir son patron avec l'attitude suivante. Elle a dit qu'on me garde ou qu'on me licencie, je vais aller dire la vérité. Elle a été dire la vérité à son patron.
Il
faut être courageux pour faire ça. Mais vous savez, il vaut mieux subir les conséquences de ça, de la vérité, plutôt que d'essayer de cacher des choses. Elle l'a dit, elle ne s'est pas fait virer, elle a continué à être dans son emploi.
Mais
elle a pris le risque.
Il
faut être courageux pour faire ça. Mais je vais vous dire une chose. Cette sœur, elle est bien attachée au Seigneur encore aujourd'hui. Parce que quand tu racontes des mensonges et que tu vis avec ton mensonge pendant des années, quelque part, t'es pas bien. Et c'est normal. Elle avait fait ça en étant inconvertie. Elle a réparé le mal qu'elle avait fait. Même si c'était au prix de perdre son boulot. Parce qu'elle savait qu'au moins elle serait débarrassée de ce poids qu'elle avait dans le cœur. Mais le mieux, c'est de marcher dans la vérité tout de suite. Parce que quand tu racontes des mensonges comme ça, tôt ou tard, il faudra que tu règles ce problème-là.
Et
régler un problème de mensonge qui dure depuis des années est beaucoup plus difficile que de couper le mal à la racine. Alors, comment se débarrasser maintenant, pour clôturer, du mensonge? Proverbe 4, versets 24 et 25. La Bible est claire, et je pense que le verset 25 a été écrit pour les
Barundi.
Ça, c'est sûr. Verset 24, il est dit: écarte-toi de la fausseté de la bouche et de la fourberie des lèvres, éloigne-la de toi. Que tes yeux regardent en face, je vous dis, ça c'est écrit pour les Barundi, et que tes paupières se dirigent droit devant toi. La Bible ne nous dit pas de prier ici. La Bible ne nous dit pas de faire chasser des démons ou je ne sais trop quoi. Elle nous donne un ordre. Écarte-toi. Il y aura un autre ordre qu'on a déjà lu dans Éphésiens qu'on relira, où la Bible disait clairement de s'en débarrasser. C'est un ordre. Donc quand la Bible nous donne un ordre, nous devons prendre une décision. La décision d'obéir à Dieu. La Bible nous dit: écarte-toi de la fausseté de la bouche.
Que
tes yeux regardent droit. Donc ça va être une décision. Éphésiens 4:25. C'est une décision. Paul, dans Éphésiens 4, nous parle justement d'être renouvelé, nous l'avons vu la dernière fois, dans nos mentalités, de marcher dans l'homme nouveau, de changer nos mentalités, de changer nos comportements. Et Éphésiens chapitre 4, verset 25 nous dit: c'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Vraiment, c'est s'en débarrasser, le déposer, le rejeter, s'en dépouiller. C'est un ordre que Dieu nous donne. Et souvent, j'ai remarqué une chose. Quand on a une maladie de comportement dans nos mentalités,
dans
de la chair, pour en guérir, il faut comprendre la puissance de l'opposé. Ça veut dire, par exemple, si tu avais l'habitude de te mettre en colère, si tu comprends ce que c'est que de vivre en paix, tu vas toujours vouloir vivre en paix. Et pour le mensonge, Paul nous parle dans 2 Corinthiens 13, verset 8,
de
quelque chose que vous devez vraiment réaliser. 2 Corinthiens
13, 8.
Paul nous dit, 2 Corinthiens 13, 8, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, c'est-à-dire pour le mensonge. Nous n'en avons que pour la vérité.
Ça,
c'est quelque chose que tu dois réaliser. Souvent, quand on est tenté à mentir, ça veut dire qu'on est en train de peser le pour et le contre. Tu te dis, si je dis vraiment ce que j'ai fait, je risque, par exemple, de me faire virer. Il risque de ne pas m'épouser. Elle risque de me laisser tomber. Ça, c'est voir très courtement. Et c'est regarder stupidement la situation. Je vous dis une chose. Dieu ne justifie pas les menteurs.
Imana ntivugira uwabeshe.
Tu subiras toutes les conséquences de ton mensonge.
Uraba mu ngaruka mbi z'ikinyoma cyawe.
Si tu prends la décision de mentir.
Niwafata ingingo y'ukubesha.
De créer ta vie sur des mensonges.
No kubakira ubuzima ku kinyoma.
Tu en subiras toutes les conséquences.
Uraba mu ngaruka zitandukanye.
Dire la vérité te coûtera tout de suite.
Kuvuga ukuri biragutwara ikintu muri ako kanya.
Mais ça va payer plus tard.
Ariko bikaguhera mu mpera mu nyuma.
Le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas comment Dieu et son royaume fonctionnent.
Abantu benshi ngorane ntibatahura ubugi.
Il y a des choses qui nous coûtent tout de suite.
Obéir
à Dieu vous coûtera. Ça nous coûte des fois cher. Mais quand Dieu paye, il paye très bien. Et c'est ça que tu dois regarder. Ça te coûtera toujours au départ d'obéir à Dieu. Marcher dans la vérité coûte. Ça te coûte. Marcher dans la vérité te coûtera. Mais Dieu te justifiera dans cette affaire. Et ça va guérir un travers de ton caractère qui pourra faire pousser tous les fruits pourris que nous avons vus jusqu'à présent. Marcher dans la vérité coûte cher. Se tenir pour la vérité coûte cher. Mais ça paye. Jésus s'est tenu dans la vérité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons pu être achetés. Nous devons apprendre qu'il y a la puissance dans la vérité. Il y a la puissance dans la vérité. Des autorités t'interrogent par rapport à quelque chose, tu dis la vérité. Ils pourront te mettre sous toutes les pressions possibles et imaginables, tu diras, non, c'est ce que j'ai fait, c'est la vérité. Rien ne pourra te détruire. Rien ne pourra te détruire. Dans une relation, quand tu dis la vérité, rien ne peut te détruire par rapport à ça. Si l'autre veut te mentir, et que toi tu marches dans la vérité, tu le sentiras. Tu le sauras. Et toi tu te préserveras. Parce qu'il y a une grande protection à marcher dans la vérité. Il y a un fruit extraordinaire de marcher dans la vérité. Il y a cette protection divine, il y a cette direction divine. Dieu te justifiera. Moi j'ai vu des situations où Dieu m'a justifié parce que j'ai dit exactement ce qui est les faits comme ils étaient. Je vais vous raconter une histoire. Il y a 5 ans, vous savez, il y a des gens qui nous avaient fait des histoires ici à l'association.
Et il y avait
eu des problèmes, ça avait été jusqu'à la documentation.
Et
on m'avait interrogé à la documentation.
On
m'avait demandé comment ça s'était passé.
J'ai
dit, ça s'est passé comme ça, mais voilà ce que je n'accepte pas. Le type de la documentation qui n'était pas sauvé,
il
m'a justifié après. Il disait à l'autre, non, le pasteur vous a dit la vérité, il ne nous a pas menti.
Et dans
cette affaire, Dieu nous a justifié d'une façon incroyable. Parce qu'on avait beaucoup de difficultés à l'époque. Et des gens voulaient prendre ce ministère, voulaient faire des histoires terribles.
Et
quand j'étais interrogé, j'ai dit non, voilà ce qui s'est passé dans les élections, voilà comment ça s'est passé, mais il dit, voilà ce que je n'accepte pas. Et Dieu m'a justifié. Imaginez-vous si j'avais raconté des histoires. Le pasteur qui a interrogé. Pasteur, vous avez menti, on a des preuves.
Pasteur,
oui, mais Dieu... C'est minable. C'est minable. Tu dis ce qui s'est passé. Tu peux dire, tu n'es pas d'accord avec certaines choses. Tout à fait, tu as le droit de dire.
Mais
tu dis ce qui s'est passé. Parce qu'il y a de la puissance dans la vérité.
Il
y a de la puissance dans la vérité. Si j'avais raconté quelque chose qui n'avait pas été vrai, d'abord je me serais compromis en tant que serviteur de Dieu. J'aurais compromis l'Église. Et en plus, croyez-moi, là, il y avait la porte ouverte pour que le diable détruise. Si tu veux que le diable détruise des choses dans ta vie,
Mens.
Là, le diable a une porte ouverte, il y a un terrain pour travailler.
Ah oui,
mais les autres, ils ont été méchants. Le diable était après moi. Non, c'est pas le diable qui était après toi, c'est toi qui lui as dit « Hello, monsieur le diable, caribou, viens ». Et après on va pleurnicher en disant j'ai perdu ça, je me retrouve dans telle situation, bouh. Et vous savez, le menteur en général il ne se remet jamais en question. Il dira jamais c'est ma faute, j'aurais pas dû mentir, j'ai menti et je subis les conséquences de mon mensonge. Comment s'en défaire? Parlez la vérité. Apprenez à évaluer les choses correctement. Parce qu'il y a parfois des gens, vous savez, ils évaluent difficilement les situations. Et ça, c'est l'éducation que beaucoup vous avez reçue ici. À la burundaise. Un virage à droite, un virage à gauche, et un virage à droite, et un virage à gauche. Apprends à être clair. Si c'était rouge, dis que c'était rouge. Ah oui, mais j'avais mes fumées ce jour-là. Non, t'avais pas tes fumées. Dis exactement les choses. Apprends à les dire telles quelles. Avec des détails s'il le faut. Apprends à évaluer les choses. N'essaye pas de te protéger faussement parce que ça ne marchera pas. Donc apprends à dire les choses telles quelles. Tout le monde peut être tenté à amplifier les choses. Non, dis exactement comment c'est. Je vous dis, je vois beaucoup de prédicateurs être tentés dans ces choses-là. Oui, mon ministère marche très bien. Ils ont perdu la moitié de l'église, mais le ministère marche très bien. Non, faut dire la vérité. On a des difficultés. On a fait des erreurs. Mais on sait que le Seigneur va nous relever. Dis la vérité. Dis la vérité. Il y a une chose, si tu veux être guéri de ce genre de comportement. Proverbe 28, verset 13. Dieu nous donne vraiment une recette pour guérir. On va clôturer par ce verset, Proverbe 28, 13. Il y a une chose que vous devez vraiment comprendre. si vous avez une maladie du comportement, c'est-à-dire que dans votre âme, parce que je vous rappelle que votre âme n'est pas née de nouveau. Si dans, vous avez un problème de comportement, c'est-à-dire par exemple un problème de mensonge, ou un autre problème, ça peut être de colère, ça peut être différentes choses dans votre caractère, si vous voulez en guérir, il va falloir passer par ce que le proverbe nous dit, le proverbe 28. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent je m'excuse, pardon et repentance. Donc ils sont là, ils vous disent je m'excuse. Mais ils sont prêts à recommencer 5 minutes plus tard. L'excuse ne vous guérira jamais. Oh, je demande pardon, parce que là, tu vois que le feu brûle partout, la maison brûle. Alors là, tu veux sauver, comme on dit, les meubles, tu veux sauver un tout petit peu de choses. Pardon. Là, tu veux sauver ce qui reste, ce qui est encore sauvable. Le problème, c'est que ça recommencera. Une vraie repentance amène la délivrance. La délivrance d'un mauvais comportement. Et la Bible nous dit clairement, dans Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses fautes, ses transgressions, ne réussit pas, ne prospère pas. Si tu caches tes fautes, si tu dissimules tes fautes, tu ne prospéreras jamais. Et prospérer, je vous rappelle, c'est s'épanouir dans le Seigneur. Donc ça, c'est clair. Tu caches ce que tu veux, tu ne prospéreras jamais. Mais la Bible nous dit, celui qui les confesse, les avoue, et qui les délaisse. Ça veut dire quelqu'un qui va avouer ce qu'il fait, ou ce qu'il a fait, et qui abandonne son péché. Alors trouve compassion. Tu ne guériras jamais d'aucun mauvais comportement si tu ne te débarrasse pas de ces choses-là. Tu peux demander pardon 50 000 fois pour un mensonge. Le problème, c'est que c'est en toi, c'est dans ton caractère. C'est un problème que tu as qu'il va falloir arracher. Oui, mais je prie que Dieu m'en débarrasse. Si tu ne passes pas par une sincère repentance, pas par des regrets, que tu veux vraiment en finir une bonne fois pour toutes, là, la puissance de Dieu va tomber sur toi. Tu seras guéri. Et le mensonge deviendra un vieux souvenir. Sans repentance, Dieu ne peut pas nous délivrer, nous guérir de nos comportements. S'excuser, demander pardon, n'est pas le niveau de la repentance. Et je vous rappelle qu'il y a ces 3 niveaux. Je m'excuse. Ça, c'est parce que tu vois que tu as fait une gaffe. Bon. Tu veux rapidement que les choses se calment. Tu demandes pardon, c'est parce que tu vois que ça commence à brûler sérieusement. Et là, tu vois que tu risques de perdre beaucoup de choses. Dans une relation, par exemple, dans d'autres domaines, mais la vraie repentance amènera une guérison dans notre âme. C'est la seule possibilité. Que tout le monde ferme ses yeux ici, nous allons clôturer par là. Père, je veux te remercier pour ta grâce et ta parole. Merci, parce que Seigneur, tu nous aides. à guérir de nos comportements, de maladies de comportement. Je prie pour chaque personne ici qui a ces problèmes de mensonge, qui à chaque fois qu'il est tenté à ne pas dire la vérité, à cacher des choses, je prie, Père Céleste, pour que tu touches sa vie et qu'il réalise au travers de cette parole qu'il doit changer complètement et que tu peux le guérir de ce problème. Seigneur, merci parce que tu nous veux être des enfants de la vérité. Tu nous as donné ton esprit qui est un esprit de vérité. Le Saint-Esprit est un esprit de vérité. Et je prie vraiment pour que tes enfants d'El Shaddai puissent savoir parler et connaître la puissance de la vérité. Afin, Seigneur, que quand ils parlent, ta puissance puisse se manifester, la foi puisse se manifester. Je te remercie, mon Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen.
Amen.
Soyez bénis, frères et sœurs. Ayez un super dimanche. Et passez du temps à regarder ce qui sort de votre bouche. Rappelez-vous que c'est un des plus grands principes de la foi. Merci d'être venu.